Кампус Бугдо.
88.1.
Il est 18h et c'est à présent l'instant interview et invité. Aujourd'hui, on reçoit en direct sur notre antenne 3 éducateurs. Hein. À la base, c'était 2 éducatrices spécialisées, mais on a un nouveau venu. On salue donc Céline, Caroline et Mathieu. Bonjour à tous les 3.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Ça va plutôt bien, merci.
Alors, on va en parler hein, du métier d'éducateur, d'éducatrice, mais on accueille aussi Patrice Javel. Salut Patrice.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va, en forme.
Et pour finir les salutations, on a ici le bonjour, on a reçu le bonsoir de Cacahuète. Je crois que c'est pour Caroline.
Tout à fait.
Donc, si tu souhaites...
le bonjour à Cacahuète. Salut Cacahuète.
Voilà, Cacahuète, un auditeur secret. Alors, on va parler avec vous donc, ce soir du métier d'éducateur, d'éducatrice spécialisée. Bah, je vous pose la question à tous les 3, c'est quoi être éducateur ? En quoi ça consiste ?
Alors je vais commencer, je vais me lancer, mais vous n'hésitez pas à me compléter. Le métier d'éducateur, moi je dirais que je pense que c'est surtout une personne qui accompagne une personne tout au long de sa vie, dans l'enfance, l'adolescence, en grandissant aussi, par rapport à des problématiques qu'il peut rencontrer sans jamais juger, en étant dans des propositions d'accompagnement, effectivement. Et je ne sais pas, est-ce que vous pourrez me dire autre chose ?
Déjà remercier quand même de donner la parole, parce que dans la réalité, c'est un métier qui est plutôt méconnu. Et dans les faits, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt important, effectivement, de venir porter très modestement, avec beaucoup d'humilité, cette parole-là d'éducateur, d'éducatrice spécialisée. Alors c'est un métier qui est quand même plutôt important, y compris au regard du contexte jeune aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement... c'est un métier qui est plutôt noble, plutôt très ancien, y compris, on ne refera pas toute l'histoire de l'éducation spécialisée en général, mais l'idée effectivement c'est peut-être mettre l'accent sur l'idée d'une tiers-médiation en fait, d'une main tendue à un moment donné, mais je pense qu'on a tous eu besoin dans nos vies respectives de quelqu'un qui pouvait peut-être à un moment donné porter conseil ou être un peu référent et référente, sauf que ce qui nous caractérise, c'est que nous on est professionnels, voilà, et qu'on est porteur et porteuse d'une mission spécifique de protection de l'enfance.
Et Caroline, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ou vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit ?
Je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est un métier qui est aussi très riche de rencontres et c'est un métier très diversifié, notamment. Par rapport aux accompagnements qu'on peut proposer, par rapport au public qu'on rencontre on a la chance aussi de proposer des projets autour de la culture, autour de des choses très très diversifiées. C'est un métier où on s'ennuie jamais, où on apprend tous les jours aussi. Moi personnellement, je me construis au quotidien, professionnellement et personnellement auprès des jeunes que j'accompagne aussi, des familles, des groupes. Voilà, donc c'est un métier très riche.
Alors, éducateur et éducateur spécialisé, est-ce que c'est la même chose, c'est le même titre ou bien il y a une spécialisation dans cette fonction ?
C'est une très bonne question. Alors, effectivement, quand on dit éducateur spécialisé, il faudrait peut-être préciser que c'est 1000 métiers en un métier, en fait. C'est un diplôme d'État. Pour autant, l'éducateur va pouvoir exercer dans beaucoup de champs de l'action sociale. Donc, un éducateur va travailler dans le domaine du handicap, dans le domaine de la protection de l'enfance, de l'exclusion, de l'insertion. Et du coup, ce qui nous spécialise, finalement, ça va être les missions et le cadre d'intervention dans lequel on va intervenir. Alors nous, aujourd'hui, on travaille dans ce qu'on appelle la prévention spécialisée. Peut-être qu'on y viendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est la même chose quand on dit éducateur et éducateur spécialisé.
D'accord. Et un diplôme d'État, donc, qui s'acquiert comment ? C'est quoi la formation ? Comment on devient éducateur, éducatrice spécialisée ?
Alors, je parle pour nous parce qu'on est diplômés depuis... Enfin, moi, personnellement, je suis diplômée depuis 5 ans. On n'a pas connu Parcoursup. Donc, nous, à l'époque, c'était... Donc, ça reste des écoles. Moi, je me suis formée à l'IRTS de Talence, par exemple. Donc, nous, c'était sur concours. Maintenant, je sais qu'il y a Parcoursup. Donc, c'est des processus qui sont complètement différents. Je vous avoue que je ne suis pas très au jus de comment ça se passe.
Aujourd'hui, c'est accessible en tout cas de suite après le bac. Hein. C'est une école qui dure 3 ans. Et donc, effectivement, dans le cadre de Parcoursup, et ce sont des dossiers qui sont retenus.
Donc il faut faire une école, c'est ouais. ça, donc bac plus 3.
Alors nous c'est reconnu bac plus 2.
D'accord.
Il y a une réforme là qui est passée il n'y a pas longtemps. Donc toute personne qui rentre en école aujourd'hui est reconnue bac plus 3. Mm-hmm. Nous on fait partie des anciens bac plus 2.
Ok.
Voilà.
Et Patrice ?
Oui, j'ai une question pour vous trois. Vous allez répondre chacun votre tour. Est-ce que c'est une vocation ? Est-ce que c'est plus une vocation ? Ou est-ce que c'est parce que vous avez entendu parler du métier d'éducateur ? Ou vous étiez attiré par le côté social ? C'est vrai que quand on aime le relationnel et quand on aime aider les autres, on se dirige vers des carrières pour faire de l'aide aux personnes. Donc est-ce que c'est plus une vocation ? Ou est-ce que c'est plus parce que vous en avez entendu parler, tout simplement, Caroline ?
Pour moi, c'est une vocation. Voilà, c'est un métier qui m'a toujours... j'ai toujours été attirée par le social, par la relation d'aide. J'ai repris mes études tard, j'avais 28 ans. Mais voilà, dans mon parcours de vie, j'ai pu avoir des expériences en tant qu'animatrice, notamment auprès de publics adolescents. Et c'est vrai qu'après, j'ai voulu me former à l'éducation spécialisée, partir sur des projets plus individuels aussi, avec les jeunes qui rencontrent des difficultés. Et voilà, et puis je pense que c'est aussi une forme, en tout cas pour ma part, de militantisme pour la jeunesse. Voilà, c'est un métier qui me tient très à cœur, de défendre aussi les valeurs de la jeunesse, qui peut être en plus mise à mal en ce moment dans ce contexte.
Céline et Mathieu.
Tu me laisses Après, moi, je pense qu'il doit quand même falloir avoir certains prérequis un petit peu en nous, c'est-à-dire que des notions d'écoute de l'autre, des notions d'empathie, des choses qui sont des traits de caractère qui sont très personnels à chacun. On va certainement pas faire ce métier tous pour les mêmes raisons. Je crois que l'école d'éducateurs vient aussi un petit peu nous conforter dans ces choix-là. On apprend aussi, hein, quand on est sur le terrain, on apprend qu'être éducateur, c'est pas venir sauver tout le monde. C'est des métiers qui peuvent être un petit peu frustrants. C'est des métiers qui nous font voir aussi les choses avec une certaine objectivité. Je pense que ce sont des choses qu'on doit avoir un petit peu en nous et qui se développent au cours des années d'expérience, qu'elles soient théoriques ou dans la pratique qu'on peut avoir ensuite. Ouais.
Mathieu ?
Non, c'est une question qui est plutôt très intéressante. Ça nous ramène à notre subjectivité. Enfin, moi, je partage aussi ce que rapportent mes collègues sur l'idée, effectivement, y compris d'un apprentissage permanent. C'est-à-dire qu'effectivement, cette vocation, elle n'est pas anodine. Mais le fait d'être éducateur ou éducatrice, je pense qu'on a passé d'une vie pour venir l'expérimenter, en fait. C'est toujours au travail, en permanence. Caroline parlait tout à l'heure du public. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt... c'est des systèmes de pédagogie, mais on est plutôt pour l'horizontalité, c'est-à-dire que c'est aussi accepter parfois que les jeunes ont beaucoup à nous apporter, y compris aux éducateurs et éducatrices spécialisées. Et finalement, ce maillage aussi fait société, en fait. Et c'est des choses dont on a particulièrement besoin aujourd'hui, qui ne sont malheureusement pas assez introduites, y compris, enfin là vous nous permettez d'intervenir ce soir, y compris sur de la radio, mais voilà, on sait bien qu'il y a quand même aujourd'hui un besoin de notre part d'être un peu plus entendu, y compris de savoir ce qu'on fait, qui est un peu plus de lisibilité, parce que finalement, quand vous interrogez à l'extérieur les personnes en général, savoir ce qu'on fait, ce qu'on réalise, au final, voilà, il y a quand même assez peu de personnes qui sont au fait de ce qu'on réalise. Donc, pour le coup, c'est quelque chose qui est plutôt important.
Pour ceux qui ont envie d'embrasser une carrière d'éducateur, je dirais, est-ce que c'est pas justement, il n'y a pas une certaine forme de charisme à avoir, parce que c'est un métier quand même où il faut... avoir du tempérament quand on a des groupes de jeunes qui s'imposent et qui ne sont pas faciles. Est-ce qu'on a justement à avoir un comportement ? Il y a des comportements à avoir, des comportements où il faut s'adapter aux jeunes, à leur détresse et en même temps montrer qu'on est là, qu'on les aide, qu'on tend la main. Mais est-ce que c'est pas un peu difficile, je dirais, comme métier pour des gens qui auraient trop de sensibilité ou trop de qui n'auraient pas assez de charisme? Est-ce que c'est pas justement un peu compliqué?
Après, donc éducateur, c'est un métier où on s'adapte en permanence, tous les jours, au quotidien. Pour moi, je pense que les qualités principales, c'est d'être à l'écoute, d'être présent, comme on l'a dit, estimer les personnes avec lesquelles on bosse aussi, le non-jugement, tout ça, ce sont des choses qui permettent d'entrer en lien et aussi après d'être légitime envers ces personnes de pouvoir intervenir dans leur vie. On parle des groupes de jeunes, mais voilà, c'est des représentations qu'on se fait, mais la présence, ça suffit, j'ai envie de dire. Voilà, et après la sensibilité, mais on a besoin d'être sensible pour faire ce métier, voilà, on a besoin d'être empathique auprès de ces publics. Mais c'est grâce aussi au super travail d'équipe qu'on fait, voilà, qui est super nécessaire pour apprendre des situations qui peuvent être très, très compliquées. Et c'est comme ça qu'on arrive à accompagner les personnes les plus fragiles, les situations les plus complexes. C'est ensemble. On est accompagné par des psychologues aussi. Voilà, on a un super travail d'équipe qui nous permet d'accompagner au mieux.
Alors, vous me direz hein, si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression que le métier d'éducateur, c'est souvent connoté à quelque chose de difficile. Est-ce que c'est un constat véritable ou bien est-ce qu'il y a des a priori ou des préjugés aussi sur les jeunes que vous aidez, par exemple ?
Enfin, en tout cas, une chose est certaine, c'est que le métier d'éducateur, c'est quand même accompagner des publics qui sont dans une certaine forme de fragilité, qui ont des problématiques qui ne sont pas toujours évidentes. Donc ça, ce sont des choses qui s'apprennent au quotidien. Comme disait Caroline, ce sont aussi du travail en équipe qui nous permet d'avoir du recul. Je ne sais pas s'il faut avoir un charisme ou un tempérament particulier pour être éducateur, dans le sens où on est tous les éducateurs que nous sommes, nous, avant, en fait. On est tous différents, on a tous des valeurs. Il peut y avoir des moments qui ne sont pas faciles, mais je crois qu'il y a aussi des moments qui sont merveilleux. Il y a aussi des instants de vie incroyables, des échanges, comme on disait, des rencontres qui nous font avancer, qui nous apprennent à nous aussi, encadrant de ces personnes-là. Et c'est aussi ça qui vient un petit peu balancer les moments qui sont un peu compliqués. Les moments compliqués, il y en a dans tous les métiers aussi. Il faut l'avoir en tête, mais on avance aussi.
Mathieu ?
Oui, non, mais voilà, pour compléter ce que rapporte ma collègue Céline, hein, dans les faits, effectivement, qui dit éducateur dit jeune à problème, et nous, c'est vrai qu'on insiste souvent sur le côté solution, parce que ces jeunes, voilà, sont dotés d'un très fort potentiel, et pour le coup, de grandes capacités de résilience, mais comme tout à chacun, à un moment donné, dans ce qui est plutôt au centre de tout ça, c'est à un moment donné la notion de rencontre, finalement, c'est comment on vient tisser un lien aussi privilégié et particulier avec ces jeunes, et dans les faits, on a la chance d'accompagner de nombreux parcours de réussite. Et ça, c'est important de le noter à tous les niveaux. Alors peut-être que vous nous interrogerez tout à l'heure effectivement sur les projets ou les actions collectives ou ce qui se met en scène ou en œuvre. Mais dans les faits, on sait ô combien il y a aussi le rapport au stigma de ces jeunes sur ces quartiers très disqualifiés, en fait. C'est-à-dire que quand on habite dans un quartier, quand il y a des éducateurs, automatiquement, on est vu comme et perçu par la société comme des jeunes porteurs d'un stigmate et automatiquement, voilà, d'une difficulté. Donc l'idée, c'est de venir comment promouvoir aussi un peu autre chose, contrebalancer tout ça. Parce que c'est encore une fois insister sur le fort potentiel et la culture aussi, hein, voilà, qui est quand même prédominante et qui est vraiment pour voir sur ce territoire-là, parce qu'il y a énormément de richesses, vraiment.
La culture, on va en parler dans quelques instants, mais du coup, j'ai une autre question. Est-ce que c'est un métier qui vous rend donc optimiste de voir qu'en fait, il y a des situations qui peuvent paraître extrêmement compliquées et au final, on voit que quand on s'y met, quand on y met du sien et qu'il y a une réciprocité, bah, ça se passe bien et finalement, bah, on trouve une solution. Est-ce que ça change un peu votre regard sur le monde, du coup ?
Il faut être optimiste. Je crois qu'on est obligé de l'être. Après, comme on disait, effectivement, il y a des moments qui sont plus compliqués, mais c'est aussi beaucoup de beaux projets. C'est aussi une jeunesse qui se mobilise. C'est aussi... Enfin, après, vous serez plus à même que moi d'en parler, mais...
Pour le coup, effectivement, enfin... Aujourd'hui, il faut bien mesurer aussi les enjeux qu'il y a autour de la jeunesse. Être jeune aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un contexte qui est quand même pas si évident que ça et qui est même très compliqué. Mais je veux dire, ça touche, c'est très transversal, ça touche vraiment toutes les catégories de jeunes, hein, indépendamment de ce qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, difficile d'être autonome, difficile d'accéder à un logement décent, y compris sur Bordeaux, du logement. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment un facteur qui est quand même très compliqué. Pour le coup, en ce qui nous concerne, si on fait ce choix-là, c'est aussi faire un pari, en fait. fait, sur le côté très positif. Et pour le coup, on en mesure les effets. Alors, c'est vrai que l'éducation, c'est des graines qu'on vient semer ici et là. Et l'idée, c'est effectivement de laisser passer le temps. Donc, il y a un rapport à la temporalité qui est à prendre en compte, parce que les effets ne sont pas immédiats, loin de là. Parfois, on est dans le doute, parfois, on recule, parfois, on n'y croit pas. Mais ce que rapportaient très justement mes collègues tout à l'heure, c'est qu'on fonctionne en équipe. Et l'idée, c'est qu'on vient en tirer une force, voilà, dans la réflexion, dans le partage, dans nos singularités, voilà, parce qu'effectivement, ce que vous rapportiez tout à l'heure sur le côté, voilà, un peu un idéal éducatif, etc., je pense que si on prend un peu de chacun, chacune, bah, finalement, peut-être que ça ressemblera à ça. Mais voilà, quoi. Donc, on reste en tout cas particulièrement optimiste et le pari éducatif se réalise de manière tout à fait adaptée, juste et y compris le travail partenarial, hein, puisqu'on partage aussi ce travail-là avec beaucoup de collègues à la fois. Donc, voilà, c'est plutôt porteur, quoi.
C'est quoi exactement la première détresse des jeunes des cités aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Qu'est-ce qu'ils appellent à l'aide? Qu'est-ce qu'ils demandent exactement ces jeunes? Parce que souvent on voit des gros problèmes dans les cités, problèmes évidemment de drogue, problèmes de jeunes qui sont perdus parce que les familles sont désocialisées, il n'y a plus de soudure familiale. Qu'est-ce que c'est les problèmes aujourd'hui quand on rencontre des jeunes?
Après, quand on parle de problèmes de jeunes des cités, je pense qu'on peut parler aussi des problèmes de la jeunesse en général, voilà, hein, qui sont des problématiques qui sont propres à chaque jeune qui grandit dans cette société aujourd'hui. Nous, on est face à une jeunesse qui va mal. La période Covid est venue aussi accentuer des problématiques déjà bien ancrées.
Les problématiques des jeunes rencontrés. Après, je pense que c'est aussi... Vas-y, finis.
Non, et du coup, il y a aussi... donc voilà, pour parler des jeunes qui grandissent sur les quartiers populaires, il y a aussi des conditions de vie, en fait, hein, qui sont propres au quartier. Il y a beaucoup de précarité. Il y a de la discrimination aussi. Hein. J'aimerais faire référence à un super morceau de Kenny Arcana, Le syndrome de l'exclu. Voilà, qui parle de la jeunesse des quartiers populaires. Voilà. Comme le disait très bien Mathieu tout à l'heure, c'est le stigmate aussi, l'image qui est posée sur ces jeunes, qui rajoute une problématique à celle de la jeunesse en général. C'est des publics adolescents, donc qui sont traversés aussi par les problématiques adolescentes et des conditions de vie qui, voilà, mais qui peuvent être compliquées, comme je l'ai dit, la précarité, la discrimination...
Alors Mathieu nous disait que le métier d'éducateur c'était plutôt méconnu, mais est-ce que c'est un métier qui est assez soutenu? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour faire les missions que vous avez besoin de mener à bien?
Alors en ce qui nous concerne, alors si effectivement on met le projecteur sur ce qui nous intéresse, à savoir la prévention spécialisée, il faut savoir que nationalement, la prévention spécialisée a quand même du plomb dans l'aile. Hein. C'est-à-dire que ce sont les départements voilà qui régissent cette mission-là. Et pour le coup, nationalement, il y a beaucoup de départements qui ont fait le choix effectivement de fermer les portes de la prévention spécialisée. En ce qui nous concerne sur le département qui nous intéresse, on est plutôt soutenu, même si effectivement en termes de moyens... voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à revoir, notamment au niveau des effectifs, au niveau des budgets, etc. Ça reste quand même au travail. Pour le coup, on a quand même des interlocuteurs, interlocutrices qui sont intéressés par ce que nous pouvons porter ici. Parce que dans les faits, ce qui est souvent reproché à la prévention spécialisée, c'est son manque de lisibilité. Voilà, on n'est pas dans des foyers éducatifs, etc., avec un groupe de jeunes... voilà, qu'on encadre toute la journée, donc on est sur un rapport au territoire, on fait du travail de rue, on va à la rencontre des jeunes, mais souvent on nous interroge sur qui sont ces jeunes, etc., qu'est-ce que vous faites. Donc il y a tout ce travail de représentation à réaliser qui est partie prenante en tout cas de la profession, quoi, voilà.
Parce que vous dépendez de l'État, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, est-ce que vous êtes des sortes de fonctionnaires ou d'agents? Comment ça se passe au niveau du statut?
Nous, on est associatifs.
Associatifs.
On fait partie d'une association qui est financée par le département. Voilà, on a le statut associatif.
Alors, on va peut-être parler des projets culturels et de la dimension un peu sportive et d'accompagnement, justement. Qu'est-ce que vous réalisez avec les jeunes?
Plein de choses.
Peut-être juste resituer après sur la prévention spécialisée, peut-être expliquer quand même un petit peu que la prévention spécialisée, c'est une approche éducative qui est un petit peu particulière. Comme disait Mathieu, on n'est pas dans des murs, dans une institution. On est ce qu'on appelle un petit peu vulgairement des éducateurs de rue. C'est-à-dire que notre travail, c'est celui d'aller au contact vers les jeunes sur les secteurs où on intervient, un public entre 11 et 25 ans. Dans cette démarche vraiment d'aller à leur rencontre. Donc ce travail de rue nous permet d'avoir des actions collectives avec des jeunes qu'on peut repérer, là où mes collègues vont expliquer un petit peu tout à l'heure, et ensuite d'avoir des suivis individuels. Donc effectivement, on n'est pas un foyer, on n'est pas une autre institution qui pourrait être repérée comme telle. Donc à partir de là, les projets qu'on va monter vont vraiment découler des rencontres que nous allons faire sur les quartiers où on intervient.
Et du coup, pour en revenir à ces rencontres et à ces projets, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ou nous parler de ce qui est en cours actuellement ?
Donc moi, je vais en profiter pour parler d'un super projet qui a lieu la semaine prochaine. Donc je fais la
promo. Le 29 octobre.
Le samedi 29 octobre, à la salle du Vigean à Isigny, aura lieu le show masterclass. Donc c'est un show autour de la culture urbaine. Donc il y aura de la danse, du rap. Mais pas que, il y aura de la capoeira, il y aura un monsieur qui fait du saxophone, le tout pour 2 euros, je fais la promo. Voilà, mais en tout cas, c'est un projet initié par les jeunes. Donc, c'est des jeunes talents des îles du quartier du Grand Caillou et du Grand Louis. Voilà, c'est des super artistes qui font de la scène, hein, donc qui émergent sur un plan professionnel. Et qui invitent, eux, des artistes pareils émergents sur Bordeaux. Donc voilà, c'est un projet qu'on soutient. Voilà, et il y a un projet qui sera soutenu par des jeunes bénévoles du quartier du Grand Caillou. Voilà, donc c'est un projet des jeunes pour les jeunes. Voilà, et venez nombreux, ça sera super.
Est-ce que justement, par rapport à ce que tu as dit, Caro, est-ce qu'il n'y a pas justement la mission de découvrir des talents cachés ?
Tout à fait.
D'aller vers les jeunes et de dire, tiens, celui-là, il m'a parlé de ça, mais tu devrais prendre confiance en toi et aller vers ce que tu peux promouvoir parce que tu es bon dans ce domaine ou autre chose. Souvent, on a l'impression que les jeunes, ils ont l'impression qu'on les ignore ou que leur projet ne va pas être intéressant parce qu'on est dans un système de société où tout est formaté. Oui. Et ceux qui sortent du cadre se sentent exclus. Et on a l'impression que justement, ces jeunes, il faut justement aller vers eux et leur donner confiance en eux. Est-ce que ce n'est pas un peu ça ?
Bien sûr, ça, c'est notre travail de tous les jours. Comme disait Mathieu, pas seulement les quartiers, mais la jeunesse en général regorge de talents. C'est une jeunesse ambitieuse, c'est une jeunesse qui a plein de projets. Et nous, notre boulot, c'est de mettre ça en lumière, leur donner la parole, leur donner confiance en eux, de s'armer pour entrer dans ce monde qui est un petit peu complexe quand même.
Mais pas seulement qu'au niveau des talents. Enfin, c'est très beau ce que vous avez dit, mais enfin, je trouve que c'est très bien résumé. C'est-à-dire que l'éducateur spécialisé, c'est aussi ça, c'est de porter de l'intérêt à un jeune qu'il rencontre. Alors ça va être là, on parle de talents un petit peu artistiques, mais c'est aussi tous les savoir-faire, les savoir-être qu'ils ont en eux et qu'on va, à partir du moment où nous, on va essayer d'y croire presque avant eux, ça va aussi leur permettre d'investir ça et on va accompagner des parcours de vie. On n'a pas la prétention de dire qu'on va changer la leur, mais en tout cas, d'être là et à un moment donné, de poser les yeux sur eux et de dire nous, on peut y croire aussi pour vous et vous accompagner, ça fait aussi émerger des talents autres qu'artistiques.
Puis il y a la question sous-jacente du déterminisme social qui est très prégnant, hein, c'est ce que vous avez pu aussi rapporter tout à l'heure sous forme des différentes interrogations, c'est-à-dire qu'effectivement, bien souvent, on le sait bien, ben, quand on est un jeune sur un territoire, ben, l'idée c'est comment on en sort à un moment donné. Et ces actions collectives là, qu'on essaie très modestement de déployer, elles visent aussi à apporter aussi autre chose, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi y croire, c'est aussi de la culture. C'est-à-dire qu'effectivement, Voilà, c'est comment accompagner les jeunes à prendre leur place. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, on essaie d'être plutôt créatif. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'apporter aussi un pas de côté à ces jeunes, en fait. Donc, ça peut être aller sur du grand théâtre, ça peut aller voir un lac des cygnes, ça peut être dans un avion à Bristol sur du street art ou en Irlande pour pêcher le brochet. Donc, c'est vrai qu'on a cette chance-là. Puis, oui. Qui plus est, même très assumé par le service dans lequel on est, on a cette chance, en tout cas, de pouvoir aussi... voilà, pouvoir expérimenter et se retrouver aussi dans des configurations qui permettent à ces jeunes aussi de se dire j'existe, j'ai une place. Et on sait au combien ça impacte ces jeunes sur le versant très narcissique, parce que bien souvent ils sont très ébranlés. Et l'idée, c'est de repartir aussi un peu à zéro. C'est un pari quotidien.
Est-ce que vous pensez qu'il existe une sorte de tabou autour de la jeunesse et davantage autour de la jeunesse en difficulté ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un certain discours dans la société que qu'on est jeune, on peut tout encaisser, et qu'au pire, si on a des mauvaises années, c'est formateur et ça nous servira pour plus tard. Qu'est-ce que vous pensez du regard à la fois sociétal et peut-être aussi politique qu'on porte sur la jeunesse aujourd'hui ?
Tabou, je sais pas. Moi, je dirais que des fois, il y a une forme de... je vais le dire comme ça, une forme de méconnaissance, ou peut-être une volonté de pas non plus... trop s'y intéresser. Après, c'est aussi pour ça, moi, je pense que des professions comme les nôtres existent, pour venir les mettre en lumière, pour venir aussi porter cette parole-là. Après...
C'est vrai que si on revient un peu sur l'histoire un peu jeunesse, enfin, elle a toujours été victime un peu de préjugés, de représentation, enfin, même y compris sur l'histoire de l'appréhension spécialisée, sur le démarrage, etc. Je pense aux années 70 avec les fameux blousons noirs, les jeunes de quartier, etc. Il y a toujours eu effectivement un rapport très particulier au niveau des jeunes qui peuvent inquiéter, angoisser pour différentes raisons, différents motifs. Et c'est vrai que bien souvent, depuis quelques temps maintenant, c'est ce versant-là qui prédomine. Hein, on le voit bien dans les médias, du point de vue du discours, du politique. Qui plus est, on peut s'interroger aussi sur le ministère de la jeunesse, etc., sur la diversité, y compris du point de vue politique, des catégories jeunes, sont-ils réellement présents quand on voit l'âge des députés à l'Assemblée nationale, etc. Enfin, voilà, c'est aussi, ça pose ces questions-là de fond, quoi, voilà, très concrètes aussi, comment, encore une fois, on accorde de la place à ces jeunes, quoi.
Et je vous demandais donc votre regard sur que la société ou la politique pouvait porter sur cette jeunesse, et votre regard à vous sur la jeunesse, vous qui côtoyez des jeunes au quotidien tous les jours.
Bah nous, moi personnellement, un regard optimiste. Voilà, on y croit, on croit en eux, on les soutient. Comme on disait, la jeunesse est belle et c'est l'avenir de demain aussi. Donc, puis c'est un public hyper enrichissant qui a beaucoup à nous apprendre aussi. Et nous, je leur dis, on apprend tous les jours à leur côté. Et puis, et c'est une jeunesse qui peut être mise à mal, voilà, dans un contexte assez anxiogène, je trouve. Période de Covid, mais pas que. Hein, la période actuelle peut être aussi très anxiogène. Et voilà, notre taf, c'est de les soutenir et de leur montrer que c'est possible.
Alors, vous nous disiez que c'est vous qui allez vers les jeunes, vous faites donc des démarches de rue, vous allez les rencontrer. Mais est-ce que les jeunes peuvent venir vers vous pour vous solliciter, et comment faire ?
Bien évidemment. Mais je vais laisser mes collègues...
Oui, bien évidemment, effectivement. Donc les jeunes peuvent nous solliciter. On a évidemment des portes à professionnels. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Et puis, y compris même les partenaires qui peuvent nous orienter à des situations bien spécifiques, qui relèvent évidemment de la mission protection de l'enfance. Donc ça demande y compris une bonne lisibilité sur nos territoires d'intervention, qu'on soit bien repéré, bien compris de toutes et de tous. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt très fonctionnel. Voilà.
Patrice ?
J'ai pas de questions pour l'instant, mais j'ai un mot de la fin. Donc, on va attendre le mot de la fin parce que j'ai quelque chose à dire d'important. Vas-y, Mélissa.
On arrive vers
on
la
arrive
fin,
à la
donc
fin
si
de
tu veux.
De toute façon, je crois.
Oui. Bon, dans trois petites minutes. Oui, parce que Caroline, tu voulais te dire quelque chose.
Moi, je voulais saluer tous les collègues du service. Je pense que certains nous écoutent. Je tiens à rappeler qu'on fait quand même le plus beau métier du monde. Et donc, je salue les collègues du service, mais aussi de toute l'ASE, toute l'aide sociale enfance. Et puis, après, j'élargis aux autres domaines. Mais voilà, faut s'accrocher. Parce que c'est le plus beau métier du monde. Excusez-moi, je me répète.
Et Mathieu et Céline, est-ce que vous souhaitez adresser un message ou dire quelque chose en particulier ?
Et merci aux jeunes aussi et aux familles qu'on rencontre. Ce métier est aussi exceptionnel grâce à eux.
Oui, peut-être, bah, Mathieu le disait en préambule, mais vraiment vous remercier aussi sur ce genre d'initiative de, bah, de donner la parole aux travailleurs sociaux. On a beaucoup mis en lumière les professions médicales et l'hôpital, et à juste titre, hein, pendant cette période Covid que tout le monde a vécu. Mais les travailleurs sociaux au sens large, je ne parle pas que des éducateurs spécialisés, méritent aussi d'être mis en lumière, méritent aussi qu'on s'intéresse à leur métier. On a des collègues formidables, effectivement, qui font un travail incroyable dans les quartiers, mais pas que, dans les institutions. Et on n'est peut-être pas toujours les meilleurs, mieux placés pour parler de notre travail, mais en tout cas, c'est un travail qui a tout son sens et qui paye à être reconnu. Et donc, merci beaucoup.
Merci à vous. Et merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre antenne pour répondre à nos questions. Juste, merci à toi, Patrice. Il nous reste une minute.
Une minute. Alors, la dernière minute, juste pour dire qu'on est dans une société qui est décadente et qui se base sur des valeurs qui sont prédéterminées à l'avance. Et on a besoin de donner de l'espoir à la jeunesse, aux jeunes des cités, aux jeunes en général, pour montrer que bah, ils sont là. Et ceux qui sont différents doivent être mis en avant pour justement montrer à la société que les différences font de la société quelque chose qui apporte quelque chose d'autre que ce que nous connaissons actuellement. Et je crois que c'est très important.
Et ces jeunes, hein, d'ailleurs, on va en recevoir mercredi soir prochain.
Mercredi prochain à 18h.
À 18h. Donc écoutez Passage, soyez au rendez-vous. L'interview continuera avant-première pour le rendez-vous le 29 octobre.
Campus Bordeaux 88,1. Campus Bordeaux 88,1.